les parts actualités. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille, en votre compagnie, au micro de Canal M pour vous présenter ces parts actualités du 23 novembre 2016. Aujourd'hui, les titres sucre et diabète, tout ce que vous devez savoir. Le Saint-Frère André continue d'aider ses semblables. Des bureaux de vote plus accessibles. Et puis aussi, besoin de bénévoles au jeu Invictus à Toronto et un verre en plastique qui fait le tour du monde virtuel. Mais également deux entrevues aujourd'hui. D'abord avec Sylvie Vanas, enseignante au primaire, massothérapeute, qui nous expliquera pourquoi il était important qu'on lui parle aujourd'hui. Et puis Luc Labbé également, que nous recevrons aujourd'hui. Sucre et diabète, tout ce que vous devez savoir. Novembre est le mois de la sensibilisation au diabète. Et bien que la plupart des gens connaissent la maladie, pour beaucoup, il s'agit encore d'une préoccupation plutôt abstraite. Le diabète est souvent attribué à la génétique et jugé inévitable ou tout simplement considéré comme une maladie qui ne touche que les personnes âgées ou en surpoids. Force est d'admettre que tout cela est bien loin de la réalité. Alors nous avons discuté, ça vient de Sanofi et Diabète Québec, ce papier-là. Nous avons discuté, nous dit-on ici, avec le docteur Jean-Marie Écoé, endocrinologue, épidémiologiste et président du Conseil professionnel de Diabète Québec, afin de mieux comprendre comment cette maladie se développe et ce que nous pouvons faire pour l'éviter ou la contrôler. D'abord, type 1, type 2, qu'est-ce qui est quoi ? Les deux principaux types de diabète sont de type 1 et 2. En bref, le type 1 est une maladie auto-immune, tandis que le type 2 est une maladie fortement génétique associée au style de vie, explique le docteur Écoé. La différence se situe au niveau de l'insuline, une hormone produite par le pancréas qui prend du sucre du sang et le stocke comme glucose dans le foie, les muscles et les cellules graisseuses. Le diabète de type 1 affecte généralement les jeunes et ne représente que 5 à 10% de la population. Avec le type 1, le pancréas est incapable de produire de l'insuline, alors que le type 2 est une maladie causée par une résistance à l'insuline. Il y a trop d'insuline dans le corps au départ. Ces taux élevés d'insuline n'arrivent cependant pas à diminuer le taux de sucre, la glycémie élevée dans le sang. À la longue, on aura non seulement une résistance à l'insuline, mais aussi une incapacité du pancréas à produire de l'insuline. Il y a donc deux défauts dans le diabète de type 2, une résistance à l'insuline et une incapacité de production de l'insuline en quantité suffisante pour diminuer la glycémie à des valeurs normales. Dans le cas du diabète de type 2, il est beaucoup plus fréquent que le type 1. Il apparaît habituellement à l'âge adulte, après 40 ans. Cela dit, il peut également être découvert dans l'enfance et l'adolescence depuis quelques années, principalement à cause de son association avec l'obésité due à la sédentarité et à l'hyperalimentation, précise le docteur Écoé. Lorsque les gens mangent des régimes riches en glucides raffinés, ils remplissent essentiellement leur sucre avec du sang. Ils remplissent essentiellement leur sang avec du sucre, pardon pour ce lapsus, puisque ces aliments se décomposent rapidement en sucre une fois à l'intérieur du corps. Le corps répond en produisant de l'insuline pour diminuer le sucre du sang en le stockant. Lorsque nos cellules, surtout celles de la graisse, sont bombardées d'insuline jour après jour, on prend du poids, c'est le phénomène de l'obésité, elles finissent par devenir désensibilisées à sa présence ou résistantes à l'insuline. Ce faisant, le taux de sucre dans le sang reste constamment élevé. Alors, est-ce que ça peut affecter tout le monde? Selon l'expert, oui. Toute personne qui consomme un régime déséquilibré, trop riche en sucre et ou en glucides raffinés, et est inactive en plus physiquement, est à risque de développer cette condition. Il existe une longue liste de facteurs de risque pour le diabète, les principaux étant l'histoire familiale, l'embonpoint et l'obésité, l'âge, la sédentarité, le prédiabète, le diabète gestationnel, les immigrants d'origine africaine, asiatique et hispanique et les populations autochtones, ajoute le docteur Écoé. On estime qu'un Canadien sur trois est soit diabétique ou prédiabétique. Approximativement, 800 000 personnes sont diagnostiquées diabétiques au Québec et probablement 200 000 le sont sans le savoir. Alors, afin de sensibiliser les Québécois sur cet enjeu important, l'initiative « Lever la main pour le diabète » a été mise sur pied. Cette campagne unique en son genre vise à bâtir une communauté engagée, à donner la parole au diabète et à rassembler tous ceux qui désirent enrichir la conversation pour tous les Québécois atteints de la maladie. Que vous soyez atteint du diabète, un ami ou un membre de la famille d'une personne atteinte ou même un professionnel de la santé, visitez le site web www.levezlamainpourlediabete.ca. Donc, levezlamainpourlediabete.ca pour y trouver des informations pratiques sur la gestion du diabète et les ressources disponibles. Et puis surtout, partagez votre histoire via une image ou une citation. Donnez la parole au diabète. Je voudrais maintenant m'adresser à Sylvie Vanas qui va nous raconter son histoire et comment elle en est venue à participer à des levées de fonds en partenariat avec l'école KinéConcept où elle a été étudiante. Madame Vanas, bonjour.
Oui, bonjour.
Madame Vanas, vous êtes massothérapeute privée depuis maintenant 2 ans. Mm-hmm. Vous avez donc étudié à l'école KinéConcept. Et vous avez vécu une agression à l'âge de 9 ans. C'est bien ça qui vous a fait décider plus tard. Vous avez pris cette décision plus tard de venir en aide à ceux qui ont vécu la même chose ou un autre traumatisme que vous. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Alors, écoutez, je ne vous demanderai pas quel genre de traumatisme vous avez vécu parce que je ne pense pas que ce soit d'intérêt public là ce matin. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez fait après, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Ben, en fait, c'est que moi, j'ai fait des rencontres détenus-victimes avec le Centre de services de justice réparatrice, qui est un centre qui vient en aide aux personnes qui ont été touchées par le crime, que ce soit des personnes qui ont agressé ou des personnes qui ont été victimes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les met en face-à-face à crime apparenté, donc pas avec la personne qui nous a offensés nécessairement, mais on met ces personnes-là en face-à-face pour qu'ils puissent se libérer des effets du crime, donc pour aider l'agresseur à réaliser l'impact de ses gestes pour éventuellement, on l'espère, ne pas récidiver et pour permettre à la personne qui a été victime de pouvoir poser des questions qu'elle aurait voulu poser à son agresseur pour elle aussi pouvoir se libérer, bon, souvent de la peur, de la tristesse, de la colère, qui sont des 3 émotions qui sont très, très fortes quand on vit un crime. Donc, et moi, quand j'ai fait mon cours à l'école KinéConcept pour devenir massothérapeute, j'ai passé, comme j'avais passé à travers tout le processus de libération des effets d'un crime, j'ai pensé qu'en développant un partenariat entre l'école KinéConcept et le Centre de services de justice réparatrice, eh bien, qu'on pourrait faire du bien aux gens qui font des rencontres détenues victimes au Centre de services de justice réparatrice. Donc, le souhait, c'est de permettre à des personnes qui font le processus de pouvoir recevoir des soins en massothérapie pour les aider à passer à travers toutes les émotions qu'on vit quand on dénonce, en fait, ce qu'on a vécu, c'est ça.
Mais dites-moi, avant d'en arriver à l'acceptation de rencontrer son agresseur, il y a certainement du chemin à faire et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Hein?
Oui, mais bien sûr, mais qu'on rencontre pas notre agresseur, comme je le disais précédemment.
Mais c'est ça que j'ai un petit peu mal compris. Je m'excuse,
oui, y a pas
Sylvie Vanas.
C'est sûrement très bien même de répéter parce que beaucoup de gens, d'abord d'entendre ça fait un choc bien souvent.
Oui.
Donc, deuxièmement, de le réentendre, c'est toujours bon. C'est toujours un crime apparenté, c'est-à-dire qu'on va rencontrer une personne qui a commis le même genre de crime
que
nous on a vécu. Mais la seule différence, c'est que la personne qu'on rencontre dans les rencontres avec le CSJR, c'est que l'agresseur reconnaît son geste et veut trouver une façon de réparer.
Je comprends.
Et de se réparer lui-même, ou elle aussi a envie de se libérer de la honte qui est liée aux gestes qu'ils ont posés. Donc, c'est comme une deuxième chance qu'on donne à tout le monde, ou une troisième, ou une quatrième, peu importe, mais de pouvoir se réparer ou d'aider une autre personne à se réparer suite à un crime.
Ça y est, là maintenant, c'est complètement clair. Excusez-moi, tantôt, je ne sais pas si j'ai eu un petit blanc. Donc, tout cela vous a évidemment énormément aidé, Sylvie, si je comprends bien.
Oui, énormément.
Énormément. Et donc, vous avez décidé de devenir bénévole pour ce centre, c'est bien ça?
Oui, parce que je trouve que ces rencontres-là nous permettent vraiment d'aller au fond de l'humain, dans tout ce qu'il y a de plus beau et dans tout ce qu'il y a de plus mauvais. Et quand on a la communication ouverte, une communication qui est claire, qui est dit avec respect, avec même parfois avec amour, et, avec compréhension. Ça fait vraiment des petits miracles. Donc, j'ai décidé d'aider le Centre de services de justice réparatrice parce que, bon, évidemment, ce genre d'organisme qui a été coupé énormément dans les dernières années, là...
Oui, refrain connu.
Oui, c'est ça. Beaucoup de subventions ont été coupées, donc on a un besoin incessant d'argent, comme bien des organismes communautaires, malheureusement. Et moi, j'ai décidé d'organiser une clinique de massothérapie.
Voilà.
Donc, comme le principe de la justice réparatrice, c'est de faire du bien à tout le monde, je trouve que le principe de la clinique de massothérapie est intéressant, puisque de la population,
oui,
viennent se faire masser pour 60 minutes.
Oui.
Ils payent 60 $ comme s'ils allaient recevoir un massage à n'importe quel endroit.
Oui.
La seule chose, c'est que moi, je donne les fonds entièrement au CSJR.
D'accord.
Et donc, les gens qui se font masser, en fait, se font masser pour une bonne cause, puisqu'ils reçoivent un soin, mais en échange, le 60 $ est donné au Centre de justice réparatrice. Et il y a une partie de 60 $ qui est retournée en reçu de dons de charité.
D'accord.
En fait.
Quelles sont les dates? Est-ce qu'il y a des dates et
oui,
des horaires? Parce qu'à un moment donné, si vous massez tout le monde comme ça gratuitement, vous n'allez pas gagner votre vie, ma pauvre
Sylvie. Non, mais en fait, on est tous des bénévoles
pour
la journée. C'est le 27 novembre.
D'accord.
Donc, si les gens veulent s'inscrire, ils peuvent le faire en m'envoyant un courriel à Sylvie avec le trait souligné en bas, vanas@commercial.com.
D'accord.
De toute façon, je crois que l'affiche sera sur votre site Internet.
Absolument.
Sinon,
absolument.
On peut référer au site de KinéConcept ou
d'accord,
sur le site du CSJR, l'affiche est là aussi. Donc, ça, c'est une façon. Et aussi, comme on a des massothérapeutes qui sont extrêmement généreux et qu'on sait qu'il y a des gens qui ne seront pas disponibles le 27, il y a plusieurs massothérapeutes qui ont offert d'offrir des soins dans le cadre de la clinique de massothérapie.
Ah.
Donc, on peut aussi prendre un rendez-vous avec, par mon entremise, prendre un rendez-vous avec une massothérapeute, recevoir le massage avant la période des fêtes, idéalement. Et si les gens, s'il n'y a plus de place du tout, parce que
oui,
bon, là, on est rendu
ça,
à 60, là, déjà, on est 60 personnes, 17 massothérapeutes, on masse plus de 75 personnes jusqu'à maintenant.
Bravo, bravo, parce que
oui,
ça veut dire beaucoup d'argent aussi.
Oui, ça veut dire beaucoup d'argent. Et puis, si jamais il y a des gens qui ne sont vraiment pas disponibles, qui ne veulent pas se faire masser, c'est sûr qu'on reçoit aussi les dons en argent. Comme ça, moi, ça me permet d'offrir des massages à des personnes, justement, qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un massage. Alors, parfois, on fait ça, on fait un échange. Et sinon, si les gens veulent simplement faire un don en argent, eh bien, on accepte tout, puis on donne des reçus pour l'impôt aussi, là.
Eh bien, c'est super.
Et il y a peut-être une dernière information,
oui,
le 27, pour les gens qui veulent s'initier au massage, on aura deux massothérapeutes qui feront massage sur chaise de 15 minutes, donc pour 15 $ Et à ce moment-là, bon, on n'a pas besoin d'enlever nos vêtements, s'assoit sur
ça,
une chaise spéciale, là,
oui,
qui est très confortable. On a une introduction à ce que pourrait être un massage et c'est pas intrusif, c'est très agréable,
d'accord,
et très relaxant.
Ah, ben écoutez, je suis ravie de vous avoir parlé parce que c'est une belle initiative. Dieu sait si ça fait du bien de se faire masser. Alors
oui,
écoutez, Sylvie Vanas, je voudrais vous souhaiter une belle réussite pour cette levée de fonds. J'espère que tout va bien se passer.
Oui, merci à vous.
Et puis, ben, passez une belle fin de journée.
Oui, et puis venez en grand nombre.
D'accord.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Par actualité régionale, officiellement désigné récemment saint patron des aidants naturels, le Saint-Frère André continue d'aider ses semblables. Grâce à une association entre l'auteur Marc Larouche et la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB à Rivière-du-Loup, les bienfaits du Saint-Homme contribueront à amasser des fonds pour y assurer la continuité des services. Il ne reste que quelques rares exemplaires en librairie du livre « Les messagers de Saint-Frère André » qui présente des témoignages de gens aidés par le Saint-Homme. Nous avons amplement dépassé les 1500 copies vendues, ce qui en fait un best-seller. Ce livre touche une clientèle souvent âgée, dont certains ne peuvent lire à cause de problèmes de vision, explique Marc Larouche, qui a eu l'idée d'en faire une version audio. J'ai ensuite pensé remettre une partie des profits de la vente à la fondation de la maison de soins palliatifs, un endroit que j'affectionne particulièrement, ajoute celui qui y agit comme pianiste bénévole depuis plusieurs années. Alors il a fait part de son idée à René Gillard, présidente de la fondation. La réponse a été enthousiaste. La Maison des Jardins est un lieu de générosité, de respect et d'humanisme. Des qualités qu'avait faites siennes le Saint-Frère André. La Fondation appuie toutes les initiatives permettant d'assurer sa pérennité pour les années à venir, commente Madame Gillard. Alors sur chaque livre audio vendu à 25 $, un montant de 10 $ ira directement à la Fondation. Les librairies J.A. Boucher et du Portage participent également. Seulement 500 exemplaires sont disponibles pour un objectif de 5 000 $ remis à la Fondation. Il est directeur des services de placement Horizon Travail. Il s'appelle Luc Labbé et il va tout nous dire sur la mission de cet organisme. Bonjour, Monsieur Labbé.
Bonjour madame, merci pour votre invitation.
Mais ça nous fait très plaisir, nous sommes là pour ça, monsieur Labbé. Alors, directeur des services de placement Horizon Travail, de quoi s'agit-il?
Ben, écoutez, d'entrée de jeu, il faut dire que notre organisation est un partenaire du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec.
D'accord.
Et à ce titre, nos services sont partie intégrante là, de l'offre de services publics, du panier d'offre de services publics de ce ministère. Ce qui nous distingue, c'est que nos services d'aide à la recherche d'un emploi et de maintien en emploi s'adresse d'abord à notre clientèle historique, qui est la clientèle des personnes aveugles et qui ont une basse vision.
Okay.
Mais aussi maintenant, depuis le 1er juillet 2016, à la clientèle des personnes qui sont atteintes d'un trouble de santé mentale.
Et quelles sont vos spécificités, M. Labbé?
Ben, écoutez, nos spécificités, je dirais que ça se situe dans notre approche de service. Notre approche de service est une approche globale. Donc,
okay.
On donne pas des services à la carte ou à la pièce. Donc, c'est une approche globale. Et dans ce contexte-là, on vise là à donner un soutien autant à la personne, à l'individu qui fait appel à nos services, mm-hmm. qu'à l'employeur qui recrute cette personne-là, afin de s'assurer là que les meilleures conditions d'intégration et de maintien d'emploi sont mises en place. Là.
Mm-hmm. Ça, c'est sur Montréal, hein?
C'est sur Montréal pour la clientèle des personnes aveugles et ayant une basse vision, mais aussi une partie de la Montérégie immédiate, la Longueuil,
Brossard
et aussi Laval. Pour ce qui est de notre nouvelle clientèle en santé mentale, c'est Montréal exclusivement.
À quoi fait-il face un aveugle qui cherche du travail?
Ben, écoutez, il fait face à des obstacles systémiques, mais aussi souvent à des obstacles que lui-même s'impose, c'est-à-dire de vouloir être autonome dans sa recherche.
Mm-hmm.
Je me permets de dire que nos services veulent être un facilitateur ou un accélérateur de réussite, dans
oui.
le sens que on préconise que la personne, que l'individu se concentre à vendre ses capacités et non pas à justifier ses incapacités.
Oui, bravo, oui. Oui, oui.
Alors, nous, on est là pour justement aplanir les obstacles avec qui pourraient se dresser devant cette personne-là, mm-hmm. autant les obstacles que l'employeur pourrait percevoir, parce que ces obstacles-là sont souvent dans la perception
mm-hmm.
et dans les préjugés,
mm-hmm.
mais ce n'est pas à la personne, selon nous, de faire une présentation ou une démystification de ce qui est possible au regard là, de l'aplanissement des incapacités qui sont...
Oui, je comprends.
Parce que on parle toujours du processus de production d'handicap. On a une déficience et on peut se retrouver dans un environnement où on est confronté à des situations d'handicap. Donc, nous, on s'occupe de diminuer, d'éliminer le plus possible ces situations d'handicap mm-hmm. potentielles. Et on demande aux participants, lui, de se concentrer à se vendre
oui.
à l'employeur, vendre ses capacités et donner le rendement au travail que oui. l'employeur est en droit de s'attendre.
Autrement dit, vous les préparez, d'une part, aux premières rencontres, mais
oui.
aussi après, à l'emploi et
oui.
à y rester, quoi.
Ben, je dirais pas les préparer,
non.
on les soutient,
oui.
c'est du coaching, mais
oui.
c'est aussi dans l'idée que un employeur... normalement, il est toujours ouvert et de bonne foi dans la mesure où on lui présente des solutions et non pas des problèmes.
Oui, ben oui, bien sûr.
Alors, nous, je pense qu'on a, au fil des années, développé des méthodes de travail qui font en sorte qu'on peut outiller et rassurer les employeurs de ce que ça implique l'embauche et le maintien en emploi d'une personne qui a une soit qui est aveugle ou qui a une basse vision.
Est-ce que vous avez l'impression que les employeurs sont plus sensibilisés que par le passé?
Oui, d'une certaine manière, je pourrais dire oui, mais d'une autre façon, c'est on se rend compte que c'est beaucoup au cas par cas qu'on réussit à avoir les meilleures réussites au travail des personnes. Notre approche est vraiment une approche là terrain, plutôt qu'une approche systémique. Dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est qu'on travaille sur les éléments sur lesquels on a du contrôle. Alors, les réalités du marché du travail, on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis même si on voudrait les changer, ça risque de prendre beaucoup de temps, puis même de mener à une situation où il n'y en aura pas d'intégration, non.
Écoutez, M. Labbé, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je voudrais redire que vous êtes directeur des services de placement. Horizon Travail. Comment peut-on vous joindre pour les gens qui nous écoutent?
C'est relativement simple, par téléphone 514-933-1141. Et aussi, c'est possible par courriel en tapant le info@horizon-travail.org. Et nous avons un site web aussi qui est le www.horizon-travail.org également.
Alors, horizon-travail.org.
Oui, c'est ça.
OK, parce qu'on va mettre ça sur notre site, Monsieur Labbé, pour que les gens puissent avoir une référence et vous retrouver facilement.
Alors, écoutez, encore une fois, merci beaucoup de l'occasion que vous nous donnez de présenter nos services.
Ça nous fait plaisir.
Et j'invite les gens là, à ne pas hésiter à communiquer avec nous, si ce n'est que pour des questions d'information.
D'accord, mais on vous remercie infiniment.
Merci à vous.
Au revoir, Monsieur Labbé.
Et merci.
Par actualité nationale, le portail en ligne est officiellement ouvert pour les membres du public qui souhaitent devenir bénévoles aux Jeux Invictus de 2017 à Toronto. Le lancement du portail de mise en candidature des bénévoles à la veille du ça s'est déroulé à la veille du jour du souvenir qui offre aux Canadiens et aux Canadiennes une occasion unique de montrer leur gratitude et leur soutien envers les militaires qui sont désormais blessés ou malades en raison de leur service militaire. Puisque seuls 1500 postes seront offerts, le portail ne sera ouvert que pour une période limitée. On encourage les membres du public à soumettre tôt leur candidature afin d'éviter toute déception. Cette année, tandis que nous nous souvenons des sacrifices qu'ont fait nos soldats et leurs familles, nous encourageons les Canadiens et les Canadiennes à transformer en gestes concrets l'empathie qu'ils ont pour nos militaires, a déclaré Michael Burns, chef de la direction comité d'organisation des Jeux Invictus de 2017 à Toronto. En devenant bénévole pour les Jeux Invictus, les gens peuvent jouer un rôle important dans le rétablissement de nos soldats et anciens combattants malades. Il faut rappeler que les Jeux Invictus ont été mis en place en 2014 par le prince Harry. C'est le seul événement international de sport adapté pour les militaires en service actif et les anciens combattants blessés et malades. C'est présenté par Jaguar Land Rover, les troisièmes Jeux Invictus qui accueilleront jusqu'à 550 concurrents représentant 17 nations qui concourront dans 12 sports, y compris le rugby en fauteuil roulant, la natation ainsi que le golf qui fera son entrée dans le programme des Jeux. Si vous voulez obtenir plus de renseignements, à savoir comment procéder pour poser sa candidature comme bénévole, vous pouvez consulter simplement invictusgames2017.com et vous cliquez sur « Bénévolat ». Par l'actualité internationale maintenant. Pourquoi la photo d'un verre en plastique pour enfants fait-il le tour des réseaux sociaux depuis le début de la semaine? Lundi, Mark Carter a lancé un appel à l'aide sur Twitter. Son fils de 14 ans, Ben, autiste, ne peut boire que dans un verre en plastique de la marque Tommy Tippy. Depuis qu'il a 2 ans, il boit là-dedans. Mais à force, l'objet commence à tomber en lambeaux. Et malheureusement, la marque ne commercialise plus ce type de verre. C'est pourquoi il demande sur le réseau social si d'autres parents auraient gardé le précieux objet. Un appel à l'aide particulièrement relayé sur Twitter et sur Facebook. Car c'est une question de vie ou de mort pour mon garçon. Nous avons testé les remplaçants, beaux et nouveaux, mais Ben nous les jetait au visage. Peut-être en avez-vous un dans le fond d'un placard, interroge ce père inquiet. Car Ben ne peut absolument pas boire dans un autre contenant que ce verre précis. Ben n'a pas bu à l'école jusqu'à l'âge de 5 ans, précise l'internaute. Et il est tellement dépendant de ce petit objet en plastique qu'il a dû être hospitalisé pour déshydratation, imaginez. Et le père de finir son post en appelant à le partager. Ce message a ému, non pas seulement le Royaume-Uni, mais la toile complète, de l'Allemagne à l'Australie. Il y a des internautes qui ont répondu à l'appel, qui ont provoqué un grand élan de générosité. Sur Twitter, plusieurs internautes envoient des photos d'un verre pour vérifier auprès de Mark Carter si c'est le bon modèle. Une internaute fait même ses premiers pas sur Twitter en proposant son aide. Selon le journal Le Monde, le sujet a suscité un vif intérêt, plus de 17 000 retweets. Et le père a reçu des dizaines de verres par voie postale. De quoi rappeler que les réseaux sociaux ne favorisent pas seulement des mouvements de haine ou des polémiques ou des combats pour sauver des emojis, mais également des mouvements de solidarité et des échanges de conseils et coups de main entre parents. Le 16 décembre prochain, il sera possible de voir un match de hockey tout en donnant un coup de pouce à la cause de l'alphabétisation, puisque plus de la moitié du prix du billet sera remis à l'organisme. Lors de cette partie du 16 décembre, le Clérisport de Saint-Georges recevra les Bulls de Saint-Prosper à 21h au centre sportif La Croix-du-Tille. Les billets sont vendus 10 et 8 dollars. Sera remis directement à Alphare, A-L-P-H-A-R-E, pour soutenir ses activités d'alphabétisation et d'éducation populaire auprès des citoyens de la MRC Beauce-Sartigan. Ne pas savoir lire, écrire ou se débrouiller à l'ordinateur en 2016, c'est un réel handicap et les gens doivent en patiner un coup pour réussir dans la vie. Les billets sont disponibles chez Alphare en contactant Annie Poulain au 418-226-4111 par courriel info@alphare.ca. L'association Sclérose en plaques Rive-Sud, la SPRS, est là pour répondre aux questions ou tout simplement pour accompagner les personnes qui ont reçu un diagnostic de sclérose en plaques ainsi que leurs proches. L'association offre un service d'écoute, des rencontres individuelles ou en groupe, des conférences et des activités. L'adhésion est gratuite. On peut contacter le 450-926-5210. C'était les Paractualités du 23 novembre 2016. Merci à toute mon équipe et merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain matin, 11h30.